30, l'émission de sport, l'avant-match. Entrevue, analyse, prévision, 100% sportive. Les coulisses des grandes équipes, les derniers développements, les événements sportifs déterminants. Le sport, scruté à la loupe.
Oh, le jeune Finlandais en a mis plein la vue hier soir au Centre Bell. Résultat, le Canadien est revenu de l'arrière pour l'emporter. Pendant ce temps-là, à Tampa Bay, Yanni Gourde fait sauter la gourde. Il fait sauter la banque, en fait. Et à Los Angeles, Clayton Kershaw est encore plus riche qu'avant.
Passe à Kotkaniemi. Il lance et goal! Yes, baby! Kotkaniemi! Yes, baby! Kotkaniemi!
Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un tel... Oublions le dénouement, là. Il y a longtemps... Ben, c'est pas vrai qu'il y a longtemps, mais... Disons que ce match-là va passer dans les plus qu'intéressants à décrire, à analyser depuis très longtemps.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 1974, j'espère que vous allez bien. Un calendrier beaucoup trop chargé pour ce qu'on peut vous présenter comme émission d'une heure. Je sais qu'on va arriver en retard à la fin, mais pas grave, ça va être le fun. On va parler du Canadien dans les prochains instants, évidemment. Tout le monde à la grandeur du Québec parle du Canadien et de ce fameux match de hockey d'hier présenté au Centre Bell. Un match de hockey où il s'est marqué 10 buts. Un match de hockey où le Canadien menait 3-1, il s'est finalement fait remonter jusqu'à 4-3. Et quand tu te fais remonter 4-3 par Buffalo, tu dis « Ouais, on a une chance de gagner encore ». Quand c'est les Capitals de Washington, tu dis « Ah non, ils ont gagné la Coupe Stanley au mois de juin l'année passée. Caroline, dommage, on avait une belle soirée. » Ben non, finalement, le Canadien a gagné 6-4. Les Capitals ont été généreux. J'enlève rien à la fougue déployée par le Canadien, mais Braden Holtby a été horrible hier soir. Et les joueurs des Capitals, dans leur zone, n'ont pas paru d'une équipe championne de la Coupe Stanley. Ceci dit, l'important pour le Canadien, c'est le 2 points dans le cahier Canada. Il faut qu'ils mettent le plus de 2 points possible pour espérer continuer de garder l'espoir pour les partisans d'une participation en série. On va parler avec Will Allende également dans le deuxième segment de l'émission et évidemment les chroniques habituelles NFL avec Stéphane Cadorette et Curiosité sportive avec Esteban. On va écouter un montage de ce qui s'est passé hier. Notre collègue Will était là, peut-être qu'on pourra lui parler tantôt si on a du temps. Je vois pas comment on va avoir du temps, mais on va essayer de trouver 2 minutes pour parler à Will. On va vous faire entendre de façon sonore pour les gens qui ont manqué le match d'hier ou qui l'ont regardé à la télé. À la télé, on n'a pas la même ambiance que sur place.
Les Capitals de Washington sont en ville. Dano Kuznetsov s'affronte et c'est parti. Voilà Hainia à 3 contre 2. Se lance au centre. Quand une entrée de zone passe à Kotkaniemi. Il lance et goal! Yes, baby! Kotkaniemi!
Le premier but en carrière de Kiki.
À la ligne bleue, tir de Niskanen bloqué par Poitre. Retournement et court. Lance Heller. Sur un retour de lancer, Heller s'est fait oublier derrière les défenses du Canadien.
Vise à Dano. Attaque tente de déjouer Carlson. La rondelle revient à Tatar. Ça met au final.
Gallagher! Quel beau jeu de Thomas Tatar! Et c'est 2-1 le Canadien.
Et voilà Dano qui en profite. Attaque la ligne 2. Rejoint Gallagher. Cercle droit. Le tir de Tatar. Rattrape retour devant Gallagher.
Et goal! Brendan Gallagher!
Kuznetsov, entre des défenses presque seul, retrait con. Alexander Ovechkin, on est derrière le filet. Oh, Johnson a perdu la passe devant. Le lancer de Heller est con. 3-3.
Lars Heller a profité de la mollesse défensive du Canadien.
Niskanen récupère sur la ligne bleue. Orlov est là.
Un lancer dévié, arrête Price est con. Cette rondelle a dévié sur Alexander Ovechkin. Un jeu transversal parfait.
Il se présente au cercle droit, tente la passe devant, but c'est raté. De l'arrière, déconne devant.
C'est 4-4! Grâce dernières secondes. Voilà, Dourvi décampe à droite, il l'a.
Le Canadien, son sixième de la saison.
Et voilà la victoire du Canadien.
Ça, c'est ce qui s'est passé sur place hier soir au Centre Bell. Évidemment, la folie. Et il y a un collègue ce matin qui m'a dit, et je trouvais pas ça si fou, son analyse. Un collègue à moi, Pierre-Luc, m'a dit ce matin, ici à la station, c'est le plus beau match du Canadien ou le match le plus excitant du Canadien depuis le fameux match où le Canadien était revenu 5-0 pour l'emporter 6-5 en prolongation sur un but de Sakou Koivu. Évidemment, ce match-là contre les Rangers, comme il n'a pas eu lieu il y a deux semaines, ben les partisans en ont enduré pas mal des matchs plates. Donc pour les partisans, hier, ça a été une très belle soirée. On va se diriger vers Montréal pour aller jaser avec notre collègue du 98.5, Jérémy Rainville, qui nous attend. J'ai hâte de voir à quel point la folie s'est emparée de la ville. Salut Jérémy!
Salut Dan!
Comment vas-tu?
Ça va bien toi?
Ça va très bien. Est-ce que tout le monde est parti en part? J'imagine que oui, parce que ça va quand même bien. Il n'y a pas de raison de mettre les pieds sur le break, là.
Non. Mais écoute, parti en peur, c'est un grand terme. C'est plus, mettons, parlons du public en général. C'est plutôt drôle de voir que, voilà, peut-être un mois et demi, deux mois, tout le monde était à bâcher sur Marc Bergevin, était en train de dire comment le Canadien, il n'y avait plus personne dans les estrades. Et que là, tout le monde est rembarqué sa wagon du Canadien. Mais tu sais, ça, c'est comme ça. C'est quand on est partisan, ben on aime, on déteste. Tout ça, ça peut arriver dans le même 10 minutes.
Oui.
Mais, tu sais, il faut respecter ça, mais il faut juste aussi se rendre compte que le Canadien de Montréal, c'est vraiment un club qui est dynamique là. T'sais, c'est un club qui travaille, puis oui. Moi je dis souvent en ondes, il y a pas de rockstar là-dedans, puis c'est un club où l'humilité doit être là. Faut que tu sois humble pour comprendre le talent que tu as, et si tu arrêtes de travailler, malheureusement le talent est pas suffisant, comme exemple les Capitals qui tiraient de l'arrière 3-1, qui sont revenus dans le match 3-3 puis prenaient devant 4-3, ça c'est du talent ça. Il y a du monde qui ont des skills, il y a des Ovechkin, il y a des Backstrom, il y a des Kuznetsov qui sont là, oui. Des gars. Oui. Qui ont du talent. Le Canadien n'a pas ça et doit absolument travailler tout le temps. Fait que donc, j'espère qu'on prend conscience que ce club-là, écoute, ce sont des humains et il va y avoir une séquence où ils vont lever le pied, c'est sûr. À mon avis, tu ne peux pas continuer de la façon qu'ils le font présentement pendant 82 matchs. Il va y avoir une séquence, il va y avoir des blessés. T'sais. Donc, si vous êtes rembarqué sur le wagon du Canadien, ben rembarquez, posez-vous la question, est-ce que je rembarque pour un bon bout ou aussitôt qu'on perd deux matchs de suite, je débarque
ouais,
et je commence à redire que Bergevin est pas bon, que Price est pourri, ouais, qu'on n'a pas de joueur. Puis, ouais. Ça, moi, ça, je trouve ça étrange, mais oui, écoute, il y a beaucoup d'enthousiasme entourant l'équipe présentement.
Puis ce qui est le fun pour les partisans, je pense, Jérémy, c'est que peu importe le résultat, là, jusqu'à maintenant, il y a plus de victoires que de défaites, mais admettons qu'au mois de janvier, moi, j'ai ciblé une séquence qui, je pense, pourrait être déterminante pour le Canadien entre le 5 et le 15 janvier. Le Canadien a joué 7 matchs sur 11 soirs. Admettons que ça va moins bien rendu au mois de janvier. Si l'équipe travaille, les partisans vont leur pardonner.
Ah, je pense que oui, puis tu as raison là-dessus à 100%. T'sais, ce qui fait la différence par rapport à l'an passé, c'est que souviens-toi, aussitôt que le Canadien se faisait marquer un but, c'était fini, parce qu'il y en avait un deuxième qui arrivait dans la minute suivante, puis là, c'était rendu 2-0, ou si le Canadien avait pris devant 1-0, c'était rendu 2-1, puis le match était terminé, et puis, tu sais, l'espoir était pas là, il y avait zéro espoir de voir le Canadien performer. Cette année, c'est différent, comme je te dis, c'est toujours la même affaire, c'est l'humilité, c'est le travail, c'est les bottes de travail, tu sais, Pat Burns disait souvent en ondes, tu sais, si t'amènes pas tes bottes de travail puis ta boîte à lunch, oublie ça, tu gagneras pas là-dedans. Puis c'est ça le Canadien. Fait que donc, oui, il peut avoir des périodes difficiles. Souvent, on a ciblé les voyages dans l'Ouest américain comme étant une étape extrêmement difficile. Même chose pour l'Ouest canadien. Je te dirais que l'Ouest américain, on est toujours sur la formule du gros bonhomme. Et tu sais, oui, je suis d'accord qu'à un certain moment, si le Canadien baisse en intensité, ça peut être problématique. Mais avec la rapidité d'exécution, je te dis, ça peut être peut-être moins compliqué que prévu à l'affronter des équipes de l'Ouest. Selon moi, puis encore là, écoute, j'ai pas de boule de cristal.
Selon
mon analyse, écoute, la relance est tellement rapide, là, ça bouge, la rondelle bouge très, très vite là-dedans.
OK, il y a de quoi qui m'agace un peu, c'est qu'en début de semaine, Marc Bergevin a dit l'équipe ne dépend plus de Carey Price, pis c'est en partie vrai depuis le début de la saison. Je me sens très à l'aise de le critiquer un peu plus que les autres parce qu'en 2010, j'étais un de ses grands défenseurs dans la région de Québec au moment où on avait le débat Price ou Halak. C'est impensable pour moi, Jérémy, que cette équipe-là participe aux séries si Carey Price ne vole pas de match cette année.
Non, ça va arriver. Honnêtement, ça va arriver. Puis dans le dernier match, je te dirais qu'il y a au moins 2-3 séquences où Price a été tout simplement miraculeux. Mais moi, je suis content d'entendre ça de la part du directeur général parce que tu sais qu'on a le panthéon rapide. Là. Nous autres, là, c'est pas trop long. Là, une bonne performance, ouais. On est prêts à faire couler une statue, puis ouais. Away go, puis on va l'idolâtrer, on va faire brûler des lampions. Et à Montréal, d'autant plus que le poste de gardien de but, écoute, c'est quelque chose de tout simplement hors contrôle. On est convaincu que faut que tu sois béni des dieux pour être gardien de but. Moi, sincèrement, je pense que ce gars-là doit être un bon gardien de la Ligue nationale de hockey. C'est-à-dire, mets pas ton club dans le trouble, fais ta job, fais bien ta job. Là, le salaire,
je change sais, ça tout. Agace. Ça change tout.
Ça, exactement, ça agace les gens.
Mais oui.
Mais je pense sincèrement que le salaire de Carey Price est en fonction de ce qu'il représente pour l'organisation, ce qu'il représente pour la marque de commerce du Canadien, ce qu'il représente au guichet pour le Canadien de Montréal et pas juste parce que c'est un bon gardien de but. Donc, tu sais, il faut regarder. C'est beaucoup d'argent, je suis d'accord, mais ça demeure un gardien de but, là. Je veux dire, c'est pas. Il guérit pas le cancer, là. Il arrête des rondelles. Puis ça se peut que des fois, soit mauvais. Moi, je pense qu'il faut garder ça en tête.
OK. Mais en même temps, à 10,5 millions, si je prends ce que tu viens de me dire, puis tu dis, faut juste qu'il soit bon, qu'il mette pas trop son équipe dans le trouble, un gars de 4 millions est amplement capable de faire ça.
Facile, facile. Mais encore là, ça c'est toi et moi. Mettons, toi et moi, là, on est dans le bureau de direction, là. Toi, t'es le président de l'équipe. Moi, je suis le DG de l'équipe. Tu me dis ça, je te dis, on est d'accord. Parfait, merci, bonsoir. On va se trouver un goaler à 4 millions. Puis on est capable de compétitionner. Numéro un, sauf que le grand boss, le propriétaire de l'équipe, lui, a décidé d'identifier sa franchise avec Carey Price pour dire, c'est notre homme. C'est lui, pour les 8 prochaines années, sera la figure marquante de notre organisation. Donc, à partir de là, tu n'as pas le choix, tu es obligé de composer avec ça quand même. Et selon le marché, si jamais Price avait touché l'autonomie, soyons honnêtes, là, c'est à peu près là-dedans là, qu'il aurait tourné. Là. C'est pas un vol. C'est sûr que c'est chèrement payé, c'est pas un vol, mais
non,
ça vaut ça.
C'est probablement le prix du marché en fonction de son expérience, comme tu dis. Sauf qu'à ce prix-là, il faut que tu voles des matchs. Parce que à ce prix-là, 10,5 millions, Crosby, Malkin, Kane et Taze font gagner leur équipe.
Clairement. Clairement. Mais une position de gardien de but, selon moi, t'as pas la même capacité de changer un match. Oui, t'as raison, pour un match donné, gardien de but garde ça à la tête, parfait. Mais pour une séquence, une saison,
oui.
Tu sais, King qui en marque un, Top Lucarne ou Crosby qui en marque comme tout récemment, marque des buts, ça peut changer le cours d'un match. Tandis que si t'as pas d'attaque, si t'as pas de défensive, t'as beau avoir le meilleur gardien au monde, il va finir la soirée pareil avec 45 lancés, puis ça se peut qu'il y en ait 3 qui passent dessus, puis c'est 3-0 pour l'autre club. Là.
Oui, je comprends.
Le principe?
Oui, je comprends.
Tu sais, on a souvent dit que the name of the game, c'est goaltending. Je suis rendu à dire que dans la Ligue nationale, maintenant, le name of the game, c'est le score des buts. Si t'es capable de marquer des buts, t'as des chances. Tu vas peut-être gagner 6-5, mais t'as des chances de gagner. C'est ce qui arrive, selon moi, dans la Ligue nationale présentement.
Je comprends très bien. Jérémy, parmi tes collègues au 98.5, il y a différentes personnalités. Parmi mes collègues au 93, il y a différentes personnalités, on s'entend. Les gens qui nous ouais. écoutent dans leur bureau, il y en a qui jasent plus, il y en a qui sont plus timides, puis il y en a qui sont plus exubérants. Puis bon, ça, il y en a partout des personnalités différentes. Tantôt, je disais, si le Canadien travaille fort au mois de janvier, même s'il perd des matchs, le public va lui pardonner, parce que l'année dernière, non seulement il n'y avait pas de résultats, mais on avait l'impression que l'équipe travaillait pas. J'espère, j'ai fait un petit détour là, par Vallée-Jonction pour t'expliquer mon point. J'espère que Carey Price regarde la façon dont se comporte Jesperi Kotkaniemi. Carey Price, on lui a reproché d'être hautain dans les dernières années. On lui a reproché de pas avoir le goût de jouer pour le Canadien puis de pas être très démonstratif dans les entrevues d'après-match. J'espère qu'il prend des notes à regarder Kotkaniemi parce que lui, il a sincèrement du fun à jouer au hockey.
Ah, clairement, t'as raison. J'espère que ça soit contagieux pour l'ensemble de l'équipe, pas juste Carey Price. Je pense que Price a confondu quelques dossiers au fil des dernières années. T'sais, a confondu ses performances avec ce qu'on pouvait lire sur les réseaux sociaux, avec les gens qui sont présents au Centre Bell, avec le petit bâton dans les airs à la fin du match. Je pense que, sincèrement, à un moment donné, il a pris personnel un peu. Tu sais, des rumeurs qu'il y a eu à gauche pas à droite, puis je pense qu'il faut que tu te rendes compte d'une chose, c'est que tes gardiens de but vont faire ta job, tu es un joueur de hockey, puis je sais que c'est difficile dans un marché comme Montréal de faire abstraction à ce qui se dit, mais tu peux pas blâmer ceux qui payent, ceux qui sont là. Fait que donc, tu as raison. Un moment donné, je pense que l'histoire de Kotkaniemi, tu sais, je pense que c'est un bon joueur de hockey, il passe bien la rondelle, hier il a marqué deux. C'est une belle histoire, le gars est souriant. C'est pas un cas dominant pour là. Peut-être qu'il sera plus tard. Il est tout jeune, il est souriant, tout le monde a du fun. Ils mettent les Finlandais ensemble.
C'est ça.
C'est cool. Oui. Ça détend l'atmosphère. Puis si Price peut comprendre ça, que, tu sais, ça demeure, je sais que c'est con à 10,5 millions, ça demeure un jeu, cette histoire-là.
Oui, oui.
Et ce jeu-là se joue dans le plaisir. S'il joue dans la frustration, dans la tourmente, ça fait des games tout croche. Fait que donc, ce que ça nous amène, Kotkaniemi, c'est une certaine légèreté, ce qu'on avait assurément besoin du côté du Canadien.
Exact. Ben d'accord avec toi. Jonathan Drouin, il y a des bons matchs, puis il y a des matchs comme hier où, finalement, il fait pas un point sur six buts de son équipe. C'est encore le joueur clé en attaque. Max Domi est impressionnant depuis le début de la saison, mais Jonathan Drouin, est-ce que tu dirais, Jérémy, qu'il est condamné à produire cette année?
Il est condamné à travailler, en tout cas. Ça, c'est clair. Okay. Il est condamné à travailler.
Okay.
Et je te dirais, tu sais, si tu regardes un peu les séquences, comment ça fonctionne, tu vois que Max Domi, souvent, peut avoir de l'espace parce qu'on surveille un petit peu plus Drouin. Tu sais, Drouin, en début d'année, là, écoute, c'était gauche-droite, là. C'était pas nord-sud, là. Ça zigonnait puis ça revenait. Tandis que là, dans les derniers matchs, on l'a vu, va plus au filet, avec sa rapidité, avec celle de Domi. Mais oui, il est condamné à s'inscrire à feuille de pointage, mais sais-tu quoi? J'ai l'impression que lui-même se condamne à ça. Tu sais, c'est pas une pression qui est juste une pression extérieure. Je pense que lui, c'est ça qu'il veut aussi. Ce gars-là, il carbure à ça. C'est un passeur, c'est un marqueur de but. C'est ce qu'il veut. Et si tu gardes la pédale au plancher comme il fait présentement avec Domi, je pense qu'il peut avoir des résultats qui sont positifs. Charles Hudon, hier, avec les deux, écoute, Charles, peut-être qu'il trouvait que les deux patinaient vite pas mal dans le match d'hier, mais il y a des bonnes mains, puis la rondelle, elle colle après lui, puis tu sais, les trois ensemble, jusqu'à temps que Paul Byron revienne, ça peut être intéressant, mais il faut qu'il continue à travailler, puis à un moment donné, ben, ça sera le but important qui fera gagner son club. Mais là, c'est vraiment la soirée Gallagher, soirée Domi, puis la soirée Kotkaniemi.
Gallagher, hier, a joué comme un capitaine, comme il fait régulièrement, d'ailleurs, même si c'est pas lui qui est capitaine de l'équipe. Jérémy, dernière question pour toi. Charles Hudon, il y a eu un gros débat, il a rencontré l'entraîneur, puis il avait pas sa chance, puis il était malheureux. Puis est-ce que tu trouves que Charles Hudon a pas eu sa chance ou il l'a pas saisi?
Oh, je pense que ça a été compliqué un peu pour lui sur le quatrième trio par moment. Pas tout le temps, mais par moment. Puis moi, selon ma vision, selon observation, quand tu avais le quatrième trio qui était composé de Mathieu Pekka, d'Andrew Shaw et de Charles Hudon, c'est un vrai quatrième trio, comme le Canadien aime avoir quatre trios, c'est-à-dire ça roule, la relance est rapide, l'échec avant est soutenu. Quand Nicolas Deslauriers est arrivé dans la formation, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est plus difficile pour Nicolas. Là. Le coup de patin est plus aussi explosif que l'an passé. La coordination n'est pas trop là. Le gars joue avec une grille, il n'est pas habitué de jouer avec une grille. Vraiment, la coordination ne semble pas là. Quand il est arrivé sur le quatrième trio, disons que ça a changé la dynamique un peu, puis lui en paye le prix parce que avec un PK, avec un Andrew Shaw qui, au début de l'année, il faut l'avouer, était tout feu, tout flamme à son premier, deuxième match, il est arrivé, tu te dis, mon Dieu, ce gars-là n'a jamais été blessé. Mais ce qui est normal, c'est normal que quand tu reviens, l'adrénaline te donne une surdose d'énergie. Mais je pense que l'arrivée de Deslauriers a fait mal à Hudon. Là, Hudon a une autre opportunité, mais ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut lire, selon moi, c'est que Claude Julien a confiance en Charles Hudon parce qu'il a dit que c'est un gars qui peut jouer ses trois premiers trios, peut remplacer n'importe où. Ça prouve que l'organisation du Canadien a confiance au flair offensif de Charles Hudon, a confiance à son travail. Maintenant, c'est à lui de saisir l'opportunité. Quand c'est là, il faut que tu le prennes. C'est de même, ça marche dans la Ligue nationale. Si tu prends pas ta chance, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre à ta place.
Ben d'accord. Un gros merci, Jérémy. Très apprécié.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Dan.
Salut bien. Bonne soirée. Jérémy Rainville, animateur au 98.5. Vous pourrez l'entendre d'ailleurs ce soir sur le 98.5. C'est le remplaçant de Ron les vendredis soirs. On va jaser avec notre collègue Will qui travaille avec moi pour l'avant-match parce qu'il était, lui, le chanceux au Centre Bell hier. Will, as-tu l'impression que... as-tu l'impression que tu as assisté à l'histoire? Je vais me calmer un peu. As-tu l'impression que tu as assisté à un match duquel on va encore parler au mois d'avril 2019?
Je pense que oui. Puis quand on va regarder tous les matchs, les 82 matchs du Canadien cette saison, probablement que celui d'hier entre les Capitals fera partie de la discussion du top 3, tant qu'à moi, des meilleurs matchs de la saison. On verra jusqu'à la fin. Si le Canadien peut nous offrir des spectacles comme ils nous ont offert hier, je pense que c'est le partisan qui va être gagnant. Mais moi, Dan, personnellement, c'est le meilleur match de hockey auquel j'ai assisté. Pas que j'ai vu à la télévision.
Sur place.
Sur place, assurément, c'est le meilleur match auquel j'ai assisté.
Ce qui aide à te faire dire ça, je pense, tu me corrigeras si je me trompe, c'est la façon dont on a joué le match. Le Canadien prend les devants 3-1, Washington revient 4-3. Il y a l'intrigue, on se dit « Ah non, c'est pas vrai, le Canadien va perdre ». Finalement, surprise, bang! Il marque, il égale, puis à 21 secondes, scénario d'Hollywood, pour employer l'expression, le Canadien l'emporte, puis deux secondes après, il brise un nouveau record de la Ligue nationale pour 2 buts en 2 secondes dans le filet désert.
Incroyable.
Si le Canadien avait gagné 7-2 hier, que Kanyemi n'avait mis 4 dedans, je suis pas certain que tu aurais eu autant de thrill parce que tout le match, le Canadien aurait dominé.
Clairement. Clairement. Et tout s'est produit dans ce match-là. Les fervents, des fois, de gardien de but ou de jeu défensif. On aime ça, une rencontre 2-1 avec 50 lancés de chaque côté. Mais les gardiens ont été bons.
Oui.
Moi, personnellement, j'aime ça voir des buts. J'aime ça du jeu offensif. Hier, tout s'est produit, hein, Dan? 1-1 après une bonne première période. Brendan Gallagher, 2 buts. Les Capitals reviennent. Par la suite, en 3e période, un peu moins bon comme spectacle. Là, mais wow, ça explose avec Kotkaniemi qui égalise le pointage. Par la suite, Domi, c'est incroyable, Dan.
Lui, Kotkaniemi, c'est le favori de la foule.
Ah, clairement.
Okay.
Clairement. Puis j'ai vu beaucoup de chandails numéro 15 de Kotkaniemi dans les estrades.
Okay.
Là, je pense qu'il y en a vendu quelques-uns également.
T'as pas vu des 15 Bobby Smith? Il en reste plus
non,
de ça,
il en reste plus beaucoup. Okay. Il en reste plus beaucoup, je te confirme. Bien sûr, on voit beaucoup des numéros 31 de Carey Price.
Oui.
Mais surtout, surtout, Dan, le numéro 11, Brendan Gallagher. C'est devenu la nouvelle coqueluche, j'ai l'impression, des partisans.
Cool.
C'est un gars charismatique, Brendan Gallagher. Son grand sourire, un peu comme Kéké.
Puis c'est facile de s'identifier au travail de Gallagher sur la patinoire.
Ben oui, absolument. Tu sais, c'est un gars qui arrive avec son lunch puis ses bottes de travail, hein?
Donc, absolument.
Absolument.
Il se présente, comme tu dis.
Les fans s'identifient à lui.
Kotkaniemi
m'a vraiment impressionné.
Oui.
Et quel match d'hockey, Dan? Je me pince encore. J'ai été chanceux d'assister à ce spectacle-là.
Tant mieux. Merci, Will.
Merci, Dan.
Et la première étoile, the first star.
Très peu de sport ont le bon réflexe. Jusqu'à 19h, au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
Pour une Kia à Québec, on pense à Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair. 3 concessions ouvertes le samedi pour vraiment mieux vous servir. Pour une 4e année de suite, la qualité Kia domine le marché avec sa garantie 5 ans, 100 000 km. Une Kia, ça s'achète à Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair.
Voici quelques conseils pour économiser. Achetez une seule brosse à dents pour toute la famille. Enlevez l'ampoule du réfrigérateur pour sauver sur l'électricité. Raccommodez vos essuie-tout. Ou passez plutôt chez Uniprix pendant les bas prix garantis. Car du 1er au 7 novembre, vous obtenez 6 boîtes de mouchoirs Royal sélectionnées pour seulement 3,77 $. Et les produits pour le corps et les cheveux Dove sélectionnés pour seulement 2,99 $ chacun. Les bas prix garantis, c'est seulement chez Uniprix. Complice de votre santé. Détails en circulaire et dans les succursales participantes.
Hey, 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 salut! C'est moi, l'insomnie. Ça te tente-tu qu'on parle de ton compte de carte de crédit? De quelle couleur tu veux repeindre la salle familiale? Hey, t'as brossé, l'as-tu mis dans la sécheuse, finalement? Oh, un mouton. Non, il est pas petit. C'est qui la fille qui parlait avec ton chum hier? Je t'ai dit que, il reste plus de jambon pour les petits. Les poubelles, c'est demain. Non, c'est derrière le compost. Faut faire une soumission.
Ça peut continuer pendant des heures. Mais c'est toujours mieux de penser à tout ça à tête reposée. Pour régler vos problèmes de sommeil, essayez la nouvelle gamme Mélatonine Sommeil d'Adrien Gagnon. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
La porte est du body.
Un des groupes les plus spectaculaires au monde. Kiss.
Kiss.
Leur dernière tournée à tout jamais. Le 2 avril au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Un dernier Kiss. Le 2 avril au Centre Vidéotron, une production Live Nation et Gestev, collaboration du FM 93.
Grande vente pré-saison chez ADM Sport. 20% sur vêtements, pièces et accessoires motoneige Quad 2019. Tournez la roue chanceuse et courez la chance de gagner votre achat. Détails sur place.
ADM Sport!
Boulevard Amel, Québec.
Quoi? Vous achetez un poêle et Napair vous donne une fendeuse? Ben c'est pourtant ça, en ce moment chez Napair. Vous venez magasiner votre poêle ou votre foyer au bois, au granule, au gaz, comme les excellents produits Ravelli. Et sur certains modèles, Napair vous donne une fendeuse à bois électrique
de 5 tonnes.
Chez Napair, vous choisissez parmi 150 poêles et foyers en magasin, dont les produits Ravelli. Et vous avez bien compris, sur certains modèles, ils vous donnent la fendeuse à boire. Les quantités sont limitées. Partenaire Action Multiflamme Napair à Sainte-Marie, à seulement 20 minutes des ponts.
Ici Michel, de Céramique L'Entrepôt. Je suis avec Sylvain du FM 93.
Ben non, Michel, t'as inversé les rôles, là.
Oui, tout va bien. Sylvain, t'es venu nous visiter dernièrement. Parle-nous de ton expérience chez nous.
Ben OK. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est la quantité de produits que vous avez et surtout le fameux prix palette. Autant de belles céramiques, de bois flottant et les vinyles clics à des prix aussi bas, c'est incroyable.
Tu vois, Sylvain, c'est exactement ce que je voulais dire aux auditeurs. Mais venant de toi, c'est encore mieux.
Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey.
La tradition se poursuit. Les soupers Mama Michelangelo sont de retour tous les dimanches de novembre. Le Michelangelo vous fait vivre une expérience gastronomique unique au Québec en vous proposant une soirée totalement italienne lors de laquelle vous sera servi un repas 7 services qui inclut des mets typiques des grands repas familiaux italiens. Exactement comme si Mama vous recevait dans sa casa un beau dimanche soir. Réservez tout de suite pour dimanche au restaurant Michelangelo à Sainte-Foy sur le chemin Saint-Louis près des ponts.
Desjardins Assurance offre des protections sur mesure à prix compétitif pour votre entreprise. En cas de sinistre, c'est gagnant. Composez le 1-888-ASSURANCE.
Chez Honda de Giro, avant, ils étaient fins. Maintenant, ils sont beaux et fins. C'est normal, ils ont tout rénové. Honda de Giro, toujours ouvert le samedi, avenue Saint-David, Montmagny.
FM 93, 93. Vous écoutez l'avant-match avec Dan.
On est de retour dans l'avant-match. Je veux vous dire que ce soir, l'escouade de l'avant-match se déplacera vers l'aréna de Charny. Le collègue Will et moi-même allons assister au match de hockey Midget 3 entre le Blizzard et les Chevaliers. Les Chevaliers toujours invaincus en 18 sorties depuis le début de la saison. C'est à 19h30 à l'aréna de Charny. Et comme l'aréna de Lévis est en rénovation, les Chevaliers doivent jouer à Charny. J'ai l'impression que l'aréna de Charny va être trop petit pour ce soir. On jase à l'instant avec Ray Lalonde, expert sport et business pour le réseau Cogeco. Vous pouvez le suivre également, Real Ray Lalonde sur Twitter et le podcast Focus, toujours intéressant, via YouTube, très facile à trouver. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci, toi.
Oui, merci. Quand je suis allé quelques fois à Vegas, puis il m'est arrivé dans une période de ma vie où je faisais un peu plus de gambling que maintenant. Ray, quand j'ai vu l'entente entre la Ligue nationale et MGM, à première vue, j'ai très hâte que tu m'expliques ça, parce qu'à première vue, puis je veux pas être négatif, là, mais je trouvais qu'il y avait un petit côté malsain à ça.
Bien, écoute, honnêtement, là, c'est surtout le virage Gary Bettman qui m'impressionne. Parce qu'en 2012, si les auditeurs se rappellent, Gary Bettman s'était opposé à un projet de loi au Canada, c'était la loi C-290, qui permettait aux provinces d'avoir plus de liberté par rapport aux paris sportifs liés aux matchs de hockey de la Ligue nationale. Okay. Et Gary Bettman était absolument opposé à ça. Mais là, ce qu'il a dit cette semaine, c'est que les temps ont changé. Il est maintenant modernisé, si on veut. Les paris sportifs, maintenant, c'est permis depuis que la Cour suprême aux États-Unis a fait l'annonce en mai dernier,
oui,
qu'une fois que les États avaient réussi à mettre en place un modèle qui était accepté légalement dans chaque État des États-Unis, ils pouvaient aller de l'avant. Donc, c'était plus juste Las Vegas et le New Jersey, c'est-à-dire le Nevada et le New Jersey. Mais là, maintenant, déjà, il y en a 6. On parle du Mississippi, on parle du West Virginia, Delaware, New Jersey, Nouveau-Mexique et évidemment le Nevada. Mais Dan, d'ici quelques mois, ça va être 10, puis d'ici quelques années, ça va être 5 ans. On va pouvoir miser sur un match. On va pouvoir miser, en dehors qu'à Vegas, sur le résultat d'un seul match de sport, peu importe les ligues. Donc, la NBA a fait le premier pas et c'était la NBA qui avait été un peu à l'insu des efforts des ligues de légaliser le processus tout simplement, aller chercher une partie des revenus sur le marché noir. Là, on parle de centaines de milliards de dollars annuellement au monde misés illégalement jusqu'à temps que cette situation-là change en mai dernier. Alors, en juillet, la NBA a accepté une entente de commandite de 3 ans, 25 millions avec MGM. Et là, Gary Bettman, cette semaine, annonce un partenariat pour quelques années. N'a pas mentionné le chiffre. C'est modeste au départ, mais là, tout change. MGM va pouvoir utiliser les logos et les marques de commerce de tous les clubs à Las Vegas et dans toutes leurs destinations de casino. Pendant ça, là, la NHL va récolter un commanditaire de plus, s'associer avec quelqu'un de façon légitime, mais c'est pas exclusif. Donc, il peut y avoir des ententes entre des équipes et leur propre casino. C'est le cas aussi avec les Golden Knights puis les Devils, qui, eux, sont allés s'associer avec William Hill. Alors, c'est l'ouverture d'une nouvelle catégorie de commandites, Dan. C'est simplement ça qui est arrivé. Et on estime déjà à plus de 215 millions de dollars annuellement disponibles d'ici peu à la Ligue nationale de hockey à cause du pari sportif.
OK. Est-ce que je comprends qu'MGM, avec les entités qu'il possède, était déjà partenaire avec la Ligue nationale via les Golden Knights et M. Foley?
Non. Ils étaient partenaires dans le contexte de l'aréna, le T-Mobile Arena.
OK.
Alors, ils ont un pourcentage important de cet aréna-là.
Parfait.
Parce qu'évidemment, c'est pas juste pour le hockey. Mais ça n'avait pas automatiquement donné la permission qu'on pouvait miser dans les sites de casinos de MGM. Il y en a plusieurs, évidemment. Mais là, c'est permis. Et non seulement ça, tu vas aller dans les casinos, mais tu vas voir le logo, les effigies des équipes. Puis en plus, la NHL va remettre à MGM des informations de statistiques avancées sur l'état des matchs, des joueurs, des statistiques importantes qui permettraient aux parieurs d'être plus informés avant de miser ces dollars.
OK, parfait. Est-ce que de faire deux matchs de la Global Series à Helsinki en Finlande pour présenter les joueurs vedettes que sont Patrick Laine et le capitaine des Panthers Alexander Barkov. Hier, c'est les Jets qui ont gagné 4-2. Aujourd'hui, c'est les Panthers qui sont revenus pour l'emporter 4-2. Est-ce que pour la Ligue nationale, c'est une bonne idée? Est-ce que c'est présage qu'on va avoir ça de plus en plus?
Ben, rappelle-toi, ça avait existé quand même en oui. Europe jusqu'en 2011.
Oui. Puis en là, début il y a de une saison, pause. Hein, les équipes allaient débuter l'année-là.
Ouais, ouais, absolument. Puis là, il y a une pause, je pense que c'était presque 6 ans.
Okay.
C'était lié aussi à la convention collective et ainsi de suite, et à la participation aux Olympiques. Là, ça a repris l'an dernier, et cette année de nouveau. Là, on est allé en Chine encore une fois cette année. Là, on est en Finlande. Bon, il y a une chose qui est claire, c'est que pour l'avoir vécu avec la NBA, il n'y a rien comme d'emmener le vrai produit en Europe ou dans des terres étrangères, parce que les partisans ont faim, ont soif de ça toute l'année durant. On ne peut pas juste leur vendre du virtuel. Il faut leur vendre le vrai produit. Ils doivent voir de leurs yeux c'est quoi, ça ressemble à quoi une équipe de la Ligue nationale de hockey. Okay. Alors là, ils l'ont vu.
Okay.
Bon, est-ce que c'est suffisant? Après ça, tu plies tes bagages, tu rentres chez vous, puis des mois passent, puis les gens suivent à la télé ou dans les médias, évidemment, numériques, mais c'est très difficile pour la Ligue nationale de progresser à moins d'en faire plus. Fait que j'apprécie l'idée, c'est nécessaire, c'est un succès, les billets se sont vendus rapidement, et Patrick Laine, c'est une vedette incontestée,
oui,
bien
oui.
sûr.
Mais ça sert qui, Ray, ces matchs-là?
Ben, ça sert la Ligue nationale, un, pour ouvrir d'autres opportunités commerciales. Ils vendent des droits télé, ils vendent de la marchandise, des produits dérivés, ben, ils vendent des événements, là. Mais surtout, quand t'as 30 % de tes joueurs qui viennent d'Europe, c'est important de continuer à cultiver le partisan. Mais le partisan là-bas et le sport en général doivent voir la Ligue nationale de leurs yeux, de près, en chair et en os, parce que y a beaucoup de, c'est des populations de hockey. On est d'accord, Dan, que c'est pas comme le soccer mondial ou la NBA, où là, tu as 150 pays qui jouent au basketball ou 200 pays qui jouent au basketball ou au soccer. On parle d'à peu près 15 à 20 pays qui sont des pays sérieux de hockey. La Ligue nationale doit quand même tout faire pour avancer le produit puis la globalisation.
OK. Le Canadien qui gagne hier, c'est la frénésie. Tout le monde est content. Très bon match, un match excitant. Il s'est marqué 10 buts. C'est parfait pour les partisans. C'est parfait pour tout le monde. Le sport, c'est rassembleur. Puis on ne sait pas ce qui va arriver. C'est pour ça qu'on présente les événements. Si c'était toujours l'équipe la plus talentueuse qui gagnait, ben on enverrait les 2 points par fax. Ah, il y en a un peu moins de fax. Mais quand même, on enverrait les 2 points par texto puis on ne présenterait pas les événements.
Ouais.
À partir de là, toi qui as travaillé au marketing du Canadien, est-ce qu'un match comme hier a un impact direct sur la vente de billets?
Bien, certainement que ça aide de battre les champions de la Coupe Stanley. Et le début de saison des Canadiens est au-delà des espérances, au-delà des espoirs. Il n'y a pas personne qui aurait cru qu'il serait 7-3-2, mais c'est 3-2, c'est 5 défaites quand même, mais qu'il aurait 7 victoires après 12 matchs. Ça, c'est sûr. Surtout, battre Pittsburgh 2 fois, battre Washington 1 fois, c'est impressionnant. Alors, là-dessus, ça va aider à solidifier l'espèce d'espoir que les gens ont, que l'équipe est en reconstruction, mais qu'il y a du talent quand même qui se prépare. Je pense que les gens n'ont pas perdu le réalisme, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'il y a des journées que ça va aller moins bien, par exemple contre Dallas l'autre jour, par exemple contre Buffalo la semaine dernière, mais c'est très encourageant ce qu'on voit là. Est-ce qu'on voit tout de suite un effet au guichet? Pas encore. J'ai regardé aujourd'hui attentivement sur le marché secondaire. Pour le match de Buffalo mardi soir prochain, il y a de la publicité énorme que les Canadiens font. Ils ont fait un pitch directement avec leur partenaire, la Banque nationale, pour offrir des billets à 20 % de moins. Là, on parle de billets à rabais, là, c'est-à-dire qu'on baisse le prix des billets. Et il y a beaucoup de billets en deçà du prix écrit sur le billet sur StubHub et sur Ticketmaster aujourd'hui pour Buffalo mardi prochain. Tampa Bay, c'est un match différent parce que énorme rivalité. Beaucoup de joueurs francophones, et c'est dans la même division. Alors là-dessus, c'est un peu différent. Ça va être une bonne soirée un samedi. Je pense que Canadien, graduellement, s'il poursuit sa lancée, les billets qui sont comme disponibles là, dans l'inventaire match par match risquent de s'envoler plus rapidement. Oui, il y a un effet à ça. Mais ça ne se tournera pas en quelques semaines non plus. Ça fait des années que ça patauge un peu. Il faut donner le temps aux partisans de pardonner, si on veut.
OK. Puis je déduis aussi qu'après une soirée comme hier, il y a moins de plaintes au service à la clientèle sur le hot dog à 4,5, la bouteille d'eau SK 500 ml à 5,25 puis la bière à 14$. Hein?
Ça, c'est sûr, Dan, parce que tu sais, les gens sont impulsifs, sont émotifs, sont réactifs. Quand l'équipe va bien, tout goûte mieux. Quand tout est plus froid,
c'est ça.
Évidemment, on a toujours plus de plaisir. On se questionne pas sur rien. Quand l'équipe va mal, on commence à chercher les petites peccadilles ici et là, puis là, on proteste. Alors, mais ça, c'est le partisan sportif de toute façon. Il a le droit d'ailleurs, parce qu'on lui demande de payer beaucoup d'argent pour se divertir. Et quand le spectacle n'est pas à la hauteur, ben là, forcément, il va dire qu'il va réagir.
Absolument. Gros merci, Ray. Bon week-end à toi.
Merci, Dan. Bonne soirée.
Merci, Ray Lalonde, à qui on parle chaque semaine dans l'avant-match.
Jusqu'à 19h, encore plus de sport avec l'avant-match. FM 93.
Il y a toujours du nouveau chez Sushi Shop. Choisissez parmi notre grande variété de sushis, délicieux bols poké et maintenant notre toute nouvelle collection de sushi burgers. Sushi Shop, l'innovation, c'est notre passion.
Dans un monde rempli d'offres de véhicules, une marque ose repousser les limites. Et une seule vente propose les meilleurs rabais sur les meilleurs modèles. 0% de financement jusqu'à 72 mois. Ou jusqu'à 4 000 $ de rabais en prime sur les modèles sélectionnés. L'incontournable Volksfest.
C'est moi ou c'est un peu intense?
Jusqu'à 4 000 $ de rabais en prime sur les modèles Passat sélectionnés. L'offre prend fin le 30 novembre. Visitez offrevw.ca pour les détails.
Volkswagen.
Il y a les petites grippes, les grosses grippes, les grippes d'hommes. Mais pour certaines personnes, la grippe est beaucoup plus sérieuse. Si vous avez 75 ans ou plus, ou vivez avec une maladie chronique comme le diabète, un trouble du système immunitaire, une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou rénale, la grippe peut mener à l'hospitalisation ou même à la mort. Nous ne sommes pas tous égaux face à la grippe. Si vous êtes à risque, la vaccination est votre meilleure protection. Visitez québec.ca/vaccin-grippe. Un message du gouvernement du Québec.
De retour au Canada pour une 7e fois et pour la première fois à Québec. De Los Angeles, Led Zeppelica, The Led Zeppelin Experience. Avec artiste invité, Back Sabbath. Zeppelica, l'hommage à Led Zeppelin le plus demandé au monde. Le 30 novembre au Grand Théâtre de Québec. Billets au grandtheatre.qc.ca. Une présentation de Piet & Fraser Productions.
Dimanche, le 4 novembre, on recule l'heure. Ceci ne signifie pas seulement qu'on gagne une heure de sommeil, mais c'est aussi un rappel de recycler vos piles et vos batteries usagées de manière responsable. Les piles des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone sont un bon début. Recyclez les piles et les batteries pour les garder hors des sites d'enfouissement et leur donner une seconde vie. Visitez appelarecycler.ca pour trouver un point de dépôt près de chez vous. Appelarecycler.ca.
Le groupe Garneau Thanatologue, c'est l'histoire d'une longue tradition de gens dévoués qui répondent aux besoins des familles lors d'un deuil. Ils vous accompagnent dans le respect et vous guident dans ces moments difficiles. Le groupe Garneau Thanatologue, là pour vous en tout respect. Groupegarneau.com.
Un des groupes les plus spectaculaires au monde. Kiss. Kiss. Leur dernière tournée à tout jamais. Le 2 avril au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Un dernier Kiss. Le 2 avril au Centre Vidéotron, une production Live Nation et Gestev, collaboration du FM 93.
Ce samedi et dimanche, chez Rona, on paye les taxes pour vous sur tout achat de 100 $ et plus. Manquez pas ça. Pour vos petits et grands projets, il y a Rona. Des conditions s'appliquent.
La roue des plaisirs hivernaux commence ici. Passez nous voir chez votre concessionnaire Toyota du Québec.
Les techniciens Toyota certifiés connaissent bien les 15 marques de pneus d'hiver autorisées par Toyota. Procurez-vous les à prix imbattable grâce à notre promesse du meilleur prix.
Barbies Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill.
Chez Barbies, nos plats de côte levée sont bons à l'os. Dégustez-en un avec des frites et une salade de choux maison chez Barbies au 330 rue Bouvier, Le Bourgneuf.
Il suffit de se donner rendez-vous chez Barbies Resto Bar Grill.
Avec ce qu'on aime au barbiesgrill.com.
Flash pub. Flash pub. Où est-ce que vous trouvez de belles céramiques, des bois flottants et des vinyles clics prêts à emporter à prix d'entrepôt? Chez Céramique l'Entrepôt 850 Pierre-Bertrand.
Dan Pou, c'est l'entraîneur, le fan, le gérant d'estrade, le journaliste. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
Bonjour à la chronique NFL avec Stéphane Gallaret du Journal de Québec. Salut Stéphane.
Salut Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Oui, ça va bien. Stéphane, c'était mardi de mémoire la date limite pour effectuer une transaction dans la NFL. Est-ce que c'est final comme au hockey de la Ligue nationale ou, à l'instar du baseball, il peut avoir encore une autre date où là, il y a des technicalités que je connais pas. Là. Mais tu sais, au baseball, il y a 31 juillet puis 31 août. Il faut que le gars, je pense, à la deuxième date, passe par le balotage. Est-ce qu'au football de la NFL, c'est final maintenant? Les équipes qu'on voit maintenant, c'est celles qui vont participer aux séries. On ne sait pas encore, mais ça va être les mêmes joueurs en série. C'est ça que je voulais dire.
C'est fini, final, bâton,
okay,
pour répondre
parfait
à ta question. Okay. Donc, c'est pour ça là, qu'il y a eu quelques moves cette semaine. Puis c'est une date limite des transactions, je te dirais, qui est un peu plus active depuis 2 ou 3 ans.
Ah
avant
oui,
ça, la date limite, ben, t'en entendais pas parler avant parce qu'il n'y en avait pas d'échange dans la saison. C'était une anomalie. T'en avais un de temps en temps. Dans les dernières années, les équipes ont plus de manœuvres sous le cap salarial. Puis on voit de plus en plus aussi de jeunes DG, de jeunes entraîneurs-chefs très agressifs qui cherchent par tous les moyens à s'améliorer. Tu sais, tu le vois, l'exemple le plus probant, moi je trouve que c'est les Rams de Los Angeles,
oui,
avec le jeune Sean McVay à la barre. C'est des équipes là qui n'hésitent plus à appuyer sur la gâchette pour faire n'importe quoi pour s'améliorer, alors qu'avant, la NFL, c'était un milieu beaucoup plus conservateur où tu sais, t'avais des gens qui étaient là en poste depuis des années puis qui disaient c'est pas comme ça qu'on monte une équipe, ça se monte à long terme et tout. Mais je pense que maintenant, certains entraîneurs ont vu les bienfaits d'ajouter des joueurs en cours de route. C'est plus dur pour ce qui est d'un corps arrière, mais pour les autres positions, généralement, tu sais, t'as moyen d'apprendre un système de jeu plutôt rapidement, donc les équipes hésitent de moins en moins.
Penses-tu que le DG des Packers a consulté Aaron Rodgers pour échanger M. Montgomery?
C'est une excellente question, mais je pense que la décision n'a pas été difficile compte tenu de ce qui est arrivé la semaine passée. Pour le bénéfice des gens qui n'ont pas vu le match, les Packers avaient une grosse chance d'aller battre les Rams, c'est-à-dire qu'Aaron Rodgers allait reprendre le ballon à la toute fin du match avec un peu moins de 2 minutes à jouer. Puis Dan, on connaît les genres de miracles qu'il est capable de faire dans ces situations-là.
Ouais.
Mais le malheur, c'est qu'il n'a jamais touché au ballon. Parce que Ty Montgomery a décidé, lui qui sortait, le retour de botter d'envoi de la zone début, il a échappé le ballon et ça a été la fin des émissions pour les Packers. Puis, ce qu'on raconte, c'est qu'il y avait déjà un gros terrain de mésentente entre Montgomery et les Packers sur l'utilisation qu'on faisait de lui à l'attaque. Il était pas satisfait de son rôle. Donc, ce qu'on lui a dit avant le botter d'envoi, c'est le rappel habituel. Les coachs le font même pas 100% du temps parce que c'est d'un commun accord avec les joueurs, tu sais, c'est devenu la norme. C'est quand le ballon arrive dans la zone début, dans cette situation-là, ne retourne pas le botter. Montgomery a décidé d'y aller quand même, donc ça a coûté le match aux Packers. Je pense que le divorce devenait inévitable. Puis tu vois, écoute, ils ont demandé un 7e choix, pas pour le prochain repêchage, mais le suivant, donc en 2020. Ça montre à quel point il n'y avait plus beaucoup de valeur aux yeux de l'organisation.
OK. Est-ce que, si j'ai bien vu, je me souviens pas quelle équipe était allée chercher. Monsieur Tate, c'est un receveur de passe, lui?
Oui. Golden Tate, des Lions qui passent aux Eagles de Philadelphie.
Ouais. Il me semble qu'il est pas si mal, lui. Quand j'ai vu ça passer cette semaine, je me suis dit, ah, me semble, moi aussi, j'aurais pris une chance avec lui.
Ben, écoute, les Eagles donnent un 3e choix. L'attaque des Eagles n'est pas aussi productive, disons-le comme ça, que l'an passé. Ça demeure une bonne équipe qui a de bonnes chances de faire les séries. Eux autres se sont dit, pour un troisième choix, on ajoute un joueur qui, Golden Tate, sa spécialité, c'est les verges après réception. C'est le meneur dans la NFL depuis 2 ans pour les verges après réception. Donc, capable de transformer un petit jeu en gros jeu. Les Eagles ont beaucoup besoin de ça cette année.
Okay.
Je pense, moi, que ça va être une bonne addition pour l'attaque. Là, on revient au point de tantôt. Est-ce qu'il va être capable d'apprendre le système de jeu facilement? Parce que du côté de Philadelphie, c'est plutôt complexe. S'il est capable de s'adapter, de s'acclimater très rapidement, les Eagles vont être vraiment gagnants sur cet échange-là. Écoute, ils ont donné un choix de troisième ronde. C'est pas de la petite monnaie. Mais quand même, je pense que quand tu vas te chercher un receveur de cette qualité-là, ça devient un excellent joueur de location parce qu'il faut le dire, Tate est à sa dernière année de contrat. Donc, ça devient presque assurément un joueur de location.
Stéphane, quand je regarde l'horaire des matchs en fin de semaine, puis je me rends compte qu'à 16h25, les Rams affrontent les Saints à la Nouvelle-Orléans, puis qu'à 20h30, c'est Packers-Pats à Foxborough, je me dis que le risque devient de plus en plus élevé pour augmenter le nombre de divorces en Amérique du Nord.
C'est possible. Écoute, moi, je conseillerais aux gens que si vous avez promis à madame ou à monsieur d'aller racler les feuilles, ça serait à 13h, l'idéal. je suggère jamais de manquer de match, mais honnêtement, celui de 16h25 entre les Saints et les Rams, ça va être du bonbon. Les Rams, c'est vraiment intéressant ces temps-ci parce qu'ils rentrent dans une partie extrêmement compliquée de leur calendrier. Tu sais, tu vois, ils ont eu les Packers d'impact la semaine passée. Là, il y a les Saints. Ensuite, il y a les Seahawks qui sont une équipe supérieure à ce qu'on pensait. Et puis, il va y avoir les Chiefs la semaine d'après. Donc, c'est beau, là, la fiche de 8-0. Mais si les Rams se sortent de là avec une fiche de 10-1 ou 11-0, on va vraiment se dire qui peut battre cette équipe-là. Ils vont avoir pogné la crème de la crème. Puis je pense qu'en fin de semaine, ça va probablement être leur test le plus difficile parce que ils vont pogner plus tard les Chiefs, mais ça va être à Mexico, donc en terrain neutre. Ils ont eu les Packers la semaine passée à la maison. Là, ils s'en vont affronter les Saints chez eux à la Nouvelle-Orléans. C'est un stade où c'est très difficile de gagner. Les Saints ont gagné 10 de leurs 11 derniers matchs là-bas. Puis dans ces 10 victoires-là, ils ont marqué une moyenne d'au-dessus de 32 points. Donc, tu vas voir un clash offensif, je pense que ça va être très intéressant. Puis, c'est deux défensives aussi qui sont sous-estimées à mon égard parce que les attaques font tellement de points, ils ont tellement de joueurs vedettes d'un côté comme de l'autre qu'on parle peu de ces défensives-là, mais c'est deux défensives de très, très bonne qualité.
Tu sais, on arrive à des dimanches soirs des fois où on se dit « ouais ». Carlin, Sunday Night, je ne sais pas si c'est le meilleur match-up qu'on a. Ou peut-être des jeux du soir, des fois, on a peut-être dit ça un peu récemment, comme hier, San Francisco qui a battu Oakland 34-3. On a l'impression que c'est un match qu'on aurait pu présenter un dimanche. Mais dimanche soir, les Packers contre et Aaron Rodgers contre Tom Brady et les Pats dans le froid à Foxborough. Peu importe, on est installé où en Amérique du Nord, c'est certain qu'on va regarder ça.
Ben, je te dirais que si jamais, mettons que vous décidez de ne pas le regarder, à part s'ils se rencontrent au Super Bowl, c'est la dernière fois qu'on va les voir un contre l'autre.
Ouais.
Parce que les technicalités du calendrier dans la NFL font en sorte que les équipes de la conférence américaine affrontent celles de la conférence nationale une fois aux 4 ans. Donc, dans 4 ans, ça nous met à 45 ans pour Tom Brady. Écoute, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais je crois plus ou moins. Moi, je le sais qu'il l'a déjà dit souvent qu'il allait jouer jusqu'à 45 ans, mais c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le faire. Ça pourrait fort probablement être le dernier match entre les deux carrières. Puis là, je le sais, il y en a qui vont dire c'est pas un contre l'autre, ils sont pas ensemble en même temps sur le terrain. Je sais tout ça, mais c'est quand même captivant, je pense, pour les téléspectateurs de savoir que deux des meilleures carrières de leur génération s'affrontent comme ça. Puis écoute, la dernière fois, ça avait été un classique en 2014. Les Packers avaient eu le dessus un match formidable d'Aaron Rodgers. Puis la fois d'avant, 2010, Aaron Rodgers avait manqué le match à cause d'une commotion cérébrale. Donc, ces deux-là se sont affrontés seulement une fois dans leur carrière. C'est quand même triste quand on pense à ça. Donc, ça va être du bonbon dimanche soir.
Un gros merci, Stéphane.
Fait plaisir. Salut, Dan.
Bon week-end. Stéphane Gadorette, l'expert NFL pour le Journal de Québec, à qui on parle chaque semaine dans l'avant-match.
L'unique, l'irremplaçable avant-match avec Dan Pou. FM 93.
OK, on l'enchaîne maintenant avec la chronique Curiosité sportive et le chum Esteban. Salut, mister.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
TMZ est tombé sur la facture des Red Sox qui sont allés veiller, évidemment, au Nightingale Plaza après leur match dimanche. La facture est tout bonnement de 300 000 $ et il y a eu un pourboire de 195 000 qui a été remis au personnel. Les gars ont bu pas moins de 169 bouteilles de champagne, toi.
Oui, mais quand tu gagnes la Série mondiale, là, Esteban, pense à ça. Ils se mettent des lunettes de ski puis ils en prennent pour s'arroser dans le vestiaire. Tu comprends-tu qu'une fois rendu dans un hôtel, quand t'as gagné, ils sont capables de prendre une vraie bouteille puis d'en coller une autre?
Ah, c'est sûr, sûr. Mais il fallait quand même que le bar ait tout ça dans son,
oui,
dans ses réserves, comme
dans
on dit.
Dans l'inventaire, ouais, c'est ça, OK.
Ils ont bu de la vodka avec ça, du Jameson, 17 bouteilles de Jack Daniel. D'après moi, les gars sont pas sortis trop à jeun de cet endroit-là.
Non, mais en même temps, c'est correct, ça. Tu sais... Au final, c'est super que tu nous racontes ça avec le montant d'argent et tous les gens adorent ça, ce genre de stats. Mais je pense qu'au final, ils vont fêter moins longtemps qu'Ovechkin quand même.
Oui, puis le pire, c'est que l'article termine en disant que c'est quelqu'un des Red Sox et non un joueur. Là, on s'entend qu'il y en a quelques-uns qui auraient pu dire « C'est beau, je m'occupe de ça, le petit Bill. » là, mais c'est vraiment quelqu'un de l'organisation qui s'est fait un plaisir de prendre la facture et de payer ça.
Oui, c'est ça, exact.
D'abord, il y a une couple de joueurs autonomes qui veulent ramener.
Ouais, c'est ça.
Et là, une couple de jours après, à la parade, les partisans lançaient des canettes de bière sur le trophée qui ont fallu réparer.
Ouais.
Tu sais, c'est comme... malgré que ça a été moins pire que Philadelphie lorsque les Eagles avaient gagné, là, c'est... Pourquoi le Boston est quand même habitué, là? J'ai vu une pancarte cette semaine, là, des jeunes qui disaient qu'ils avaient 16 ans et ils en étaient à leur 11e parade. Là,
11 parades,
que
exact.
Ce soit les Patriots, les Red Sox, les Bruins. Ouais,
comme les gens à Montréal. Ah oh non, eux autres, c'est aucune parade en 25 ans. Okay, c'est différent.
Tu parlais avec Stéphane des Rams, des Bills, etc. Je suis tombé sur quelques statistiques très intéressantes. Patrick Mahomes, le quart des Chiefs, lance une passe de toucher sur 9,1% de ses passes. Il a eu 26 touchés en 285 tentatives de passe.
Wow!
C'est quand même quelque chose, là.
Absolument.
On en a une autre, Todd Gurley, le courant des Rams.
Le coureur, tu parles de lui
le
comme...
Le running back, là, je cherchais l'expression. Non, mais... Le demi-offensif.
Le coureur, quand
tu dis ça... Demi-offensif des Rams, il y a 15 touchés jusqu'à date, on est à la moitié de la saison,
oui.
Et c'est déjà plus que 6 équipes au total. Il y a 6 équipes qui n'ont pas 15 touchés dans leur année, lui, il y a ça, juste un joueur.
Ouais, ça, c'est impressionnant. C'est comme en début de semaine, on a appris que Tom Brady, c'était le carrière qui avait le plus de victoires à Buffalo depuis 2001. Les carrières des Bills inclus.
Imagine-toi. Cette année, il y a beaucoup de jeux truqués. Là. Tu vois, à un moment donné, ça finit que c'est un receveur de passe qui fait une passe et qui a une passe de toucher. À date, il y en a 4 cette année qui ont ça. C'est plus de passes de toucher que les carrières des Bills de Buffalo.
Hey, tabarnak.
Et la dernière, mais elle est vraiment, mais oui, vraiment la plus impressionnante.
Oui.
Hugh Jackson, que tu sais que les Browns ont congédié cette semaine.
Oui.
Si on voulait égaliser le pourcentage de victoire de Bill Belichick avec Hugh Jackson, si on dirait à Bill, là, ça doit être exprès pour en perdre quelques-unes là, pour rattraper Hugh, là, pour pas qu'il se sente mal avec son pourcentage victoire-défaite, là. Il faudrait que Bill Belichick perde 867 matchs de suite.
Faudrait que, pour arriver au même pourcentage, qu'ils perdent 867 matchs de suite?
En plein ça. Pour avoir le même pourcentage, étant donné qu'il a déjà gagné 256 matchs. Donc, tu comprends que pour arriver à l'équivalent, là, ben, faudrait qu'ils en perdent 867 de suite.
Ça n'a pas de bon sens.
C'est 55 saisons de 0-16.
J'adore ce genre de statistiques. Hey, avant de te laisser, Esteban, en 20 secondes...
Oui.
Les deux partisans qui ont assisté aux 5 événements sportifs le week-end dernier à Los Angeles, la même journée, le dimanche, ils sont partis en train, en bus, en Uber.
Ils ont fait de la moto, ils ont fait de l'hélicoptère, ils ont tout fait. Là. Mais, pour assister aux 5 sports professionnels à Los Angeles, c'était quelque chose. Là.
Mais je sais, eux autres voulaient juste passer à l'histoire, mais sérieusement, moi, j'aime voir des événements au complet.
Ouais, ben moi aussi, je suis d'accord avec toi. Tu sais, ils sont allés au... je crois qu'ils sont allés au baseball pour retourner au basket pour dire qu'ils avaient fait le cinquième, mais ils ont même pas vu, ou non, ils sont retournés au baseball à la fin, mais ont dû quitter le match de baseball pour aller au basket.
Exact.
Ne serait-ce qu'un temps, je sais pas.
Puis là, ils sont retournés aux Dodgers, mais imagine les gens qui sont partis avant la fin hier, ils ont tout manqué. Un gros merci à Stéphane.
Salut, mon Dan. Bonne fin de semaine.
Merci à toi. C'est tout pour l'avant-match de ce soir. Passez donc une belle fin de semaine.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93. Ça me parle.